Éric Venet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Montbleu Finance. On va parler avec vous de marché financier, de perspectives sur ces marchés. Si vous voulez bien, on commence par les États-Unis, qui sont un peu au cœur, un petit peu à la fois des interrogations et puis aussi
Bonnes interrogations.
Voilà, des marchés. Comment vous analysez-vous ce qui se passe aux États-Unis? C'est vrai qu'on a eu un peu des signaux contradictoires. Vous pensez que l'économie est vraiment repartie,
oui,
l'économie
oui,
américaine?
Enfin, tous les ans, à la même époque, on se dit ah, il y a un petit coup de mou, alors que finalement, il y a bien des pays qui aimerait avoir ces dynamiques de croissance quand même. Je vais juste rappeler quand même 295 000 créations d'emplois le mois dernier, un rythme annuel, mensuel 260 000, taux de chômage 5,5. Alors on va me dire, bon, c'est pas forcément, il y a encore des gens qui n'ont pas du plein emploi, mais enfin peu importe, la dynamique est là. Après, est-ce qu'on va finalement normaliser tout ça? En fait, le problème c'est que les États-Unis sont un îlot de prospérité économique par rapport à un monde qui, lui, lutte contre la désinflation avec le risque de déflation, qui pour moi n'existe pas en Europe, même si on l'a vendu pour un quantitative easing. Mais j'aimerais bien être américain, c'est-à-dire que voilà, c'est reparti. Alors, par contre, en termes de dynamique, bon, voilà, c'est bouclé, et en termes de marché financier, il vaut mieux être maintenant sur le prochain qui va démarrer, et que le prochain qui va démarrer, c'est effectivement en Europe. Et ça paraît un peu plus en plus certain.
Alors là, on a eu beaucoup de flux d'ailleurs de ce côté-là. Les Américains eux-mêmes sont venus acheter l'Europe, qui n'avait pas encore de croissance terrible, qui n'en a toujours pas d'ailleurs pour l'instant. En tout cas, il y a des petits signaux.
Ça frétille. C'est le propre de l'illusion monétaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme on n'arrive pas à le faire avec la vraie solide économie en politique budgétaire, parce qu'on n'a pas la volonté politique ou l'endettement, certains diront, mais bon. Il faut le faire par la manipulation des prix. La manipulation des prix, c'est génial parce que tout le monde est dans une euphorie avec tellement de liquidités qu'on va s'aimer de toute façon un petit peu d'optimisme, et avec ça, ça va nous permettre de se projeter un peu plus de façon positive. Alors, pour que ça fonctionne en termes économiques, il faut une stabilité. Et là, la stabilité doit nous être offerte par les États-Unis, donc stabilité et croissance, et surtout par la finance qui ne doit pas surréagir par rapport à cette divergence entre les deux côtés de l'Atlantique, une économie américaine qui est pas mal et donc qui apprécie sa monnaie, et puis une économie européenne à qui on injecte massivement des doses de création monétaire et qui est donc la monnaie au tapis. Il ne faut pas que ces deux aient des relations fortes, violentes. Et c'est ça qui peut être le hic de la politique du quantitative easing. Est-ce qu'on n'aura pas une réaction de l'euro trop faible et un dollar trop fort.
Oui, parce qu'on a connu ça par le passé. Hein, sur le même exemple qu'on cite avec la Bundesbank, la fameuse Bouba de l'époque, et la Réserve fédérale qui était là aussi, mais on cite toujours cet exemple-là où quand il y a eu une divergence, les investisseurs, ça a été violent.
Oui, c'est ça. Et c'est de plus en plus violent, hein, parce qu'à coup d'injection, on est quoi, à 100 milliards maintenant d'économies, au moins par le Japon et l'Europe par mois. Les fonds, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et donc, comme on est tous pareil, il faut bien aller chercher un peu de du rendement, qui est devenu négatif maintenant pour les Européens. Il faut aller là où le marché va. Il ne faut pas être le dernier, ni à rentrer, ni à sortir. Mais du coup, vous avez quand même un effet important de surréaction. C'est ça qui me gêne un petit peu par rapport à la dynamique positive qui démarre en Europe. Mais je reste optimiste.
C'est quelque part, c'est l'idée que ce qui va se passer aux États-Unis, alors on est toujours encore avec des points d'interrogation sur le timing qui arrivera. Est-ce que c'est vraiment cette année 2015 ou pas?
Ah mais, oui, ça c'est 2015.
Ça c'est clair. Mais
est-ce que c'est avant les vacances ou après les vacances? Voilà. C'est tout. Est-ce qu'on va passer des bonnes vacances ou pas?
Et cet impact, l'impact que ça aura finalement malgré tout sur l'euro, sur les taux en Europe.
Voilà, c'est exactement. Parce qu'à la limite,
cette fameuse contagion,
c'est ça dont on a peur. C'est pas la remontée de 0,20 centimes qui va changer quoi que ce soit. C'est surtout comment vont réagir les propres marchés. C'est-à-dire que est-ce que ça va avoir une divergence encore plus forte, violente sur l'euro-dol ou pas? C'est ça la vraie question. À la limite, même si on était tous d'accord pour une remontée de taux demain matin, si on signait que le marché disait bah, « Allez, il y aura peut-être un ajustement, mais il n'y aura pas une forte volatilité des taux et des devises », à ce moment-là, on sera tous d'accord. Mais là, c'est ça. On a un peu peur de… C'est pas qu'on veut encore un peu de pression à la baisse et de création monétaire en euros, c'est simplement qu'on ne sait pas comment va réagir le marché, et c'est quand même tout repose sur un euro faible par rapport à un dollar fort, mais pas trop fort non plus.
Et qui permettent à l'Europe, en tout cas, de s'en sortir.
De s'en sortir, oui. Mais Alors, ce qui nous gêne encore aujourd'hui, c'est pour lorsque vous regardez les entreprises, c'est que quel est l'impact fondamental de ça, quand même, parce que de la baisse des prix, qui est à mon avis terminée, mais surtout de ce coup de fouet de l'euro, d'aide avec l'euro. On ne sait pas encore l'analyser. Donc, peut-être que dans un mois ou deux, on verra dans les comptes que c'est effectivement beaucoup plus massif que ça et qu'on mérite donc cette forte croissance en Europe.
Oui, parce qu'on avait vu jusqu'à présent, typiquement, que ça n'avait pas suffisamment d'impact encore sur les entreprises européennes.
Oui.
Et puis, il y a d'autres problèmes sur des pays émergents.
Oui, oui, mais en fait, et donc les gérants attendent, on se dit, est-ce que c'est, on a monté un peu. C'est un peu comme l'année dernière où on disait, ah, mais les États-Unis ont bien monté, et on va avoir une correction. En fait, on n'a jamais de correction parce que finalement, il y a une dynamique forte. Et quand vous n'êtes pas dans le marché, donc voilà, vous courez après. Je pense que si je suis incapable de vous dire si on vaut vraiment 15, 16, 20% de croissance depuis le début de l'année, j'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire c'est que ne pas y être, c'est un petit peu dangereux.
Oui, comme toujours avec dans ces moments où les politiques monétaires dominent finalement les marchés.
Voilà, c'est la problématique de la mainmise des politiques des banques centrales. C'est-à-dire que c'est eux qui font le marché, donc vous avez du mal à avoir vos propres repères. Dans d'autres temps, je leur ai dit, effectivement, la dynamique macroéconomique est bonne, il faut y aller. Là, quel est le vrai prix des devises, quel est le vrai prix des taux, j'en sais rien et personne ne sait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu en disant à quel moment je vais vendre mes emprunts à la banque centrale. Est-ce que je tire encore un peu ou pas? Est-ce que à un moment donné, la dynamique américaine des remontées de taux m'intéressera, je vends pour aller aux États-Unis. En fait, c'est ça.
En fait, il faut le faire avant Goldman Sachs.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Exactement. Ouais, si vous le faites après, c'est compliqué.
C'est trop tard. Il faut le faire avant.
Un autre sujet, les pays émergents. Je disais, on a vu sur le Brésil des soucis. On voit la Chine aussi qui connaît un petit peu des ratés, en tout cas en termes de croissance. Est-ce que ça peut jouer aussi sur les marchés?
Non, je crois pas. C'est-à-dire que la Chine est dans un mouvement de fond, d'amélioration de son modèle économique. Il est clair que c'est le prochain pays victime de pression de déflation, ça c'est clair. Sauf que vous savez pas très bien quelle est la situation en Chine avec le shadow banking. Elle va baisser ses taux d'intérêt, le faire profiter de la baisse des taux aux banques qui sont vraiment en place pour essayer de serrer le shadow banking, mais c'est bien. Enfin, dans l'absolu, tout ça va dans le bon sens. Après, pour vous dire, est-ce que ça change quoi que ce soit dans le marché financier chinois, on n'en sait rien. C'est pour ça que je préfère un pays comme l'Inde, où là, vous avez quand même une vision beaucoup plus intéressante. C'est un autre pays qui bénéficie de la baisse des prix, du pétrole en termes de pouvoir d'achat, qui est baisse des prix en termes d'inflation, qui était une inflation à 10 quand même il n'y a pas très longtemps, qui est maintenant à 5. On remonte, on va baisser les taux. On a un dirigeant qui est quand même très pro-business. Je pense que l'un des meilleurs pays émergents aujourd'hui, c'est l'Inde. Et encore pour un petit moment, parce que tout converge pour l'Inde.
Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Eric Bonnet.
Merci à vous.